Bienvenue dans Moderne, le podcast du Marais Mood qui parle des tendances et de l'air du temps. Chaque semaine, sur le ton d'une conversation entre amis, Katia Barillo, rédactrice en chef du Marais Mood, le média de Paris Centre, décrypte les tendances, mode, food, beauté, bien-être, déco, etc. avec un spécialiste qui nous éclaire sur les grands courants de notre époque. Merci à notre sponsor Les Enfants Rouges. Cette agence immobilière est incontournable dans le Marais et Paris Centre avec ses bureaux dans les quartiers Bretagne, Place des Vosges, Oberkampf et Saint-Martin. Aujourd'hui dans Moderne, nous recevons Carl Fredrik Svantedt. Carl Fredrik Svantedt est architecte, il est né à Stockholm en Suède, a grandi à Montréal au Canada. Il est diplômé de Harvard et de la Yale School of Architecture. Il a fondé son cabinet d'architecture en 2000 à Paris après avoir travaillé à New York. Installé dans le Marais, Carl Fredrik Svantedt a remporté des prix prestigieux. Je vais le dire hein, Frédéric, je suis désolée. Bonjour Frédéric.
Bonjour,
ça
c'est
va
gentil de m'accueillir.
Alors il est installé dans le Marais comme je vous l'ai dit et il a remporté des prix prestigieux tels que le Grand Prix de l'architecture en 2017 pour Stone Construction, il va nous en parler. Et puis il a été nominé pour l'Équerre d'Argent, c'est le plus grand prix d'architecture français pour le vignoble du domaine de Haute. Il a également reçu l'American Architecture Prize en 2016 et l'International Stone Architecture Award en 2013. Non mais on n'a pas assez de souffle pour le dire, pour dire tout ça. Et puis, vous avez des meubles, vous créez des meubles, ils sont édités par le rival à New York. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, non. On travaille à toutes les échelles, on va dire.
Oui, comme un architecte classique, en fait, on croit, le grand public croit que l'architecte ne fait que bâtir ou intervenir sur le bâti, mais en fait, il crée aussi des accessoires.
La question souvent, c'est est-ce que tu es architecte d'extérieur ou intérieur? Et je trouve ça très drôle. Mais on peut faire toutes les échelles, de l'urbain au, entre guillemets, design, qui est un mot que je n'adore pas.
Pourquoi?
Ça vient du dessin. Et donc en anglais, c'est un très bon mot parce que ça connote le dessin, qui est le trait qu'on donne aux choses. En France, j'ai l'impression que c'est utilisé un peu comme un anglicisme déjà, mais aussi pour désigner des choses qui ont une connotation parfois un peu superflue. Mmh. Et comme je pense que le dessin est important, voilà, c'est ça qui me froisse un peu.
Mais... Alors, vous avez raison, mais je crois que j'ai vu les chiffres lors de la Design Paris Week, que en fait, les designers étaient de plus en plus nombreux et que leur métier était de plus en plus respecté et qu'ils étaient de mieux en mieux rémunérés. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Non, mais je suis peut-être grincheux de parler ainsi. C'est pas le design qui me gêne, pas du tout. Au contraire, comme j'ai aussi... dessiner des mobiliers et des objets pendant une période. J'ai énormément de respect pour les gens qui font du design. Et le design même, c'est peut-être le mot que je... On a tendance à dire « Oh, c'est design !» Et je trouve que ça, peut-être ça ne met pas assez en valeur le travail que ça comporte.
Oui, le vrai travail qu'il y a derrière. Ouais. Alors, Carl Fredrik Svantedt est connu pour ses constructions durables et innovantes, car ses propositions vont des projets publics au design de mobilier, en passant par des maisons de particuliers et puis des chais monumentaux, incroyables. Dites-moi, vous qui avez enseigné à l'école d'architecture de Lille, avez été professeur invité à la Spitzer School of Architecture de City University of New York et qui avez enseigné dans les écoles d'architecture de Versailles, de la Villette et de Normandie, ainsi que les écoles d'architecture de Munster. Est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez dans bâtir des meubles, des immeubles monumentaux? Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Parce que je crois qu'une grande partie de votre travail est monumentale.
Alors, je ne vais pas être faussement modeste, mais il s'agit surtout de deux bâtiments. Donc, pour un architecte, c'est un début. Mais effectivement, c'est des bâtiments qui ont une certaine présence, mais c'est aussi facile de faire ça avec des projets de vignobles. C'est des chais qui sont dans des cadres naturels souvent. Et donc, le paysage demande presque, requiert quelque chose qui est à l'échelle du paysage. Il y a plein de vignobles qui sont des entrepôts, c'est de l'agriculture. Mais j'ai eu l'occasion, je suis ravi d'avoir eu cette chance de deux fois construire des bâtiments qui sont à l'échelle du paysage. Et donc, c'est étonnant parce que l'architecture est une plus-value. C'est des bâtiments qui coûtent un peu plus, mais pas autant que les gens pensent, mais qui apportent une qualité, je pense, énorme au paysage et au site et aussi au vignoble pour lequel j'ai travaillé, parce qu'ils trouvent leur échelle dans le paysage, comme j'ai dit, mais ils sont aussi construits avec une idée que ça va durer très très longtemps. Donc c'est un investissement.
Ce sont des métiers où on sait ce que ça veut dire, le terroir, l'appartenance et effectivement la durée dans le temps. Mais citez-nous les vignobles dont il est question. Il est quand même question de Deutz, de Röderer. Il est aussi question de l'Ermitage.
Oui, alors le premier projet, c'est les domaines hôtes, le château de Selles, parce que les domaines, ils ont trois domaines. Et c'est sur un plateau en Provence, côte de Provence. Sublime, donc là c'est un bâtiment qui prend l'horizon, qui crée un horizon, on peut dire.
Il faut aller les voir, hein. Franchement je vous le recommande, allez les voir sur internet ou sur votre site.
Oui, et c'est étonnant parce que les gens pensent souvent que soit ils sont en béton ou en bois ou habillés, et c'est pas du tout, c'est vraiment des bâtiments qui sont construits avec au moins les façades entièrement en pierre structurelle, massive, comme Paris, à l'ancienne. Donc, c'est une autre manière de construire que j'ai découvert en France. Moi, je viens d'ailleurs un peu. Et du coup, j'ai réussi à construire des projets qui sont très, très ancrés dans leur terroir, ce qui a parlé aux vignerons. Et donc, l'autre projet, c'est Delas Frères qui est atteint l'Ermitage dans la vallée de Rhône.
Ouais, une des plus prestigieuses vallées viticoles.
Oui, c'est un lieu où on fait des vins avec une certaine élégance. Et par contre, c'est un projet très différent de l'autre parce qu'il se trouve en plein cœur d'un village, qui est un village viticole. Et là où les vignerons moderne, par facilité, avait tendance de créer des entrepôts en dehors de la ville.
Ex nihilo, en fait. Hein, ouais.
Voilà. La maison Delas Frères a choisi de récupérer un site en cœur de ville. Et malgré les complications que ça implique de faire les vendanges en plein cœur de village, les accès et tout ça, et les flux, ils ont voulu redonner vie à un site. Et donc là, il y a une chez qui s'intègre autour d'un parc avec un mur qui en photo est très spectaculaire en pierre, mais qui étonnamment est assez en retrait, assez discret tant qu'on ne se rapproche pas.
Alors, je le dis, hein, vraiment, je vous conjure, il faut aller voir ces œuvres parce que c'est plus que de l'architecture, c'est très sensuel, c'est très vibrant, c'est très, comment pourrais-je dire, c'est très organique ce que vous faites. Vous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier? Quel architecte et comment est née votre vocation?
Je dirais qu'il y a deux origines. La première, et celle qui ressort, c'est que j'ai passé beaucoup de mon enfance à m'ennuyer à la campagne.
Mais j'ai trouvé en Suède
En Suède en plus. Et j'ai trouvé les paysages sublimes et ils sont restés avec moi. D'ailleurs, on jouait sur des énormes rochers, un paysage un peu de troll, fantasme.
La pierre déjà,
voilà. Donc ça revient dans le travail, dans certains projets qu'on peut exercer comme ça. Mais ce qui m'a poussé à faire l'architecture, ce que je j'aspirais à créer, à vrai dire, et que j'ai fait un tout petit peu, et que peut-être j'ai un projet en cours actuellement, c'est que je voulais créer des lieux de vie, de l'habitat pour des gens, voire des logements sociaux ou pas, où, et ça c'est le cœur de l'architecture pour moi, on donnait plus que ce qui était demandé.
Ah, dis donc, c'est très différent de ce qu'on voit à Paris. Parce que vous le savez, hein, l'État est intervenu dernièrement en disant aux gens qui fabriquent des immeubles dans les grandes villes, attention, nous n'allons plus avancer de l'argent parce que les appartements, les pièces se réduisent de plus en plus. Les chambres à coucher, par exemple, sont passées de 11 mètres carrés à 9 mètres carrés. Et l'État qui... aide beaucoup tous ces nouveaux projets à décider d'arrêter, en tout cas d'interpeller les architectes et les donneurs d'ordre. Donc vous nous racontez quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait rêver, parce qu'on a pu le voir pendant le confinement, c'est terrible de vivre dans des petits appartements comme à Paris, alors qu'en Suède, on a l'habitude du confinement à cause de l'hiver peut-être. Et donc on aime les beaux espaces, les espaces épurés. Vous avez beaucoup réfléchi à ça finalement, sans le vouloir.
Ben, comme je suis urbain, malgré mes passages à la campagne, disons, je connais bien la problématique des densités urbaines. Et c'est vrai qu'en France, il y a un double discours, si on parle un peu politique, c'est que la densité est une bonne chose. Et c'est vrai qu'il faut lutter un peu contre l'étalement urbain et aussi la manque de surveillance de l'étendue des zones commerciales, des autoroutes qui deviennent des sortes de...
Qui prennent trop de part sur la nature.
Oui, mais qui ou aussi la qualité... qui détruisent les centres de ville. Un peu.
Le périurbain, le fameux périurbain qui, avec
voilà,
son architecture...
Voilà, il ne faut pas démoniser non plus... les gens qui vivent par nécessité dans ce cadre, on a tous pratiqué d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ça, là, il y a une logique de densité qui peut s'appliquer. Mais dans une ville comme Paris, qui est le plus dense d'Europe, je crois, parler de densification, je ne suis pas sûr que c'est si rationnel que ça. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est le marché qui... a réduit la qualité de l'offre, qui a réduit les surfaces construites. Je ne connais pas tout à fait toute la logique derrière, mais évidemment, c'est lié à une logique commerciale qui permet de réduire la taille des appartements, des logis. Et donc, il y a eu ce rapport pour le gouvernement, fait par un architecte, d'ailleurs. Et effectivement, moi, je serais dans une toute autre logique. Alors, Je découvre qu'est-ce que c'est de sur un projet qui est, je pense, assez qualitatif, mais sans être prestigieux, mais juste ou sans, c'est peut-être pas que c'est pas prestigieux, c'est un projet à Versailles avec la création d'un quartier vraiment de qualité où la qualité prime. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une possibilité de créer des logements, peut-être avec une vision de générosité. Voilà. Je ne vais pas critiquer trop parce que je découvre le sujet. Mais même si, d'ailleurs, dans le Marais, j'ai fait un projet de rénovation rue de. Alors, c'est plus dans le Marais. Bon, je ne sais pas si c'est dans le 13e. Oui, c'est dans le 13e.
Alors, ça compte comme le Marais.
Oui, c'est le rue de Grenier-Saint-Lazare.
Oui.
Voilà. Et c'était une expérience fascinante.
C'était quoi ?
C'est un bâtiment existant du 18e siècle, très modeste, avec des gens qui habitaient, qui étaient d'origine assez modeste, qui étaient dans un état lamentable. Et un bailleur social parisien, qui a changé de nom depuis, mais du centre de Paris. On a eu un projet à faire. Et là, j'ai eu l'impression d'être un peu de médecin de campagne, c'est-à-dire de faire du bien, de faire ça bien. Ça a pris énormément d'énergie et de temps.
Pourquoi ? Il fallait parler aux gens, leur expliquer ?
Alors déjà, c'était, y avait des gens qui habitaient dedans pendant qu'on a fait les travaux. C'est méticuleux, c'est, il faut être près des gens, il faut aller doucement. Et donc le chantier a pris beaucoup de temps et j'ai trouvé ça une expérience très enrichissante et noble. Mais j'ai aussi compris que ce n'était pas tout à fait comment je voulais m'engager. Voilà.
Quelles étaient les limites de l'exercice ?
Rénover l'existant en améliorant purement ce qu'il y a. Donc ça ne se voit pas. C'est juste redonner. C'est médecins sans frontières quelque part. C'est aider les gens où ils ont vraiment besoin, certes. Mais peut-être j'ai envie de pouvoir créer plus. C'est peut-être ça la différence. C'est qu'il y a... Il y a un travail, ça c'est un travail d'être auprès d'un patient qui est... Non, je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire là-dedans.
C'est intéressant, là-dedans. C'est intéressant.
Mais c'est vraiment aider le quotidien, si on veut. Mais ce n'est pas tout à fait projeter l'avenir. C'est mettre des pansements.
C'est réparer.
C'est réparer, voilà. Et je pense que, autant que je peux comprendre ce travail, et j'ai découvert le faire... Je préfère aussi améliorer, rajouter et construire quelque chose à côté.
Alors, on sait que vous avez travaillé aux États-Unis, mais où avez-vous été formé à votre métier de designer ?
Ah, alors, en tant que...
Et d'architecte ?
Oui. Donc, l'architecture, c'est une chose, mais la vision... En fait, quand j'étais à l'université, avant d'étudier l'architecture...
Où ça ?
À Harvard. J'ai fait des études d'histoire et littérature, donc humaniste, parce que je m'étais mis dans la tête qu'il fallait, avant de faire d'architecture, que je voulais faire, apprendre à réfléchir. Je ne sais pas si j'ai appris ça, mais c'était l'idée. J'ai étudié avec un professeur qui venait du milieu de Bauhaus. Il était un peu il était américain, donc il était des deuxièmes générations parce qu'il avait été formé par les profs allemands qui ont fui le nazisme pour aller aux États-Unis. Et donc l'idée de Bauhaus, en tout cas ce que j'ai retenu, c'est que tous les arts se vaut et tous les arts peuvent être explorés. Donc, c'est peut-être ça qui me permet de penser que je peux aussi faire du design comme l'architecture et que c'est une continuité et pas une différence. Il n'y a pas de différence entre faire un bâtiment et faire la cuillère avec laquelle on va mettre le sucre dans son café.
Vous connaissez bien l'Europe du Nord puisque vous y êtes né, vous y avez vécu enfant, mais aussi la France ainsi que le continent américain. Quelles sont les différences entre ces architectures et les architectes qui font l'architecture dans ces différents pays ?
Je commencerai par mon désir de venir en France, qui était assez mitigé au début, j'avoue. Mais je regardais de loin avec admiration des architectes qui, c'était pendant l'ère Mitterrand, donc il y avait les grands projets, donc ça m'a impressionné un peu. Mais aussi, j'ai vu les agences qui faisaient toutes sortes de projets publics, mais à toutes les échelles. J'ai découvert en France que ce n'est pas toujours si facile de passer d'une crèche à des logements sociaux, à un musée. Mais j'ai quand même travaillé dans des agences qui ont réussi, d'ailleurs dans le Marais, Canal, et après Studio Milou, avec Jean-François Milou qui a fait le carreau de Temple. J'ai travaillé dans des agences qui arrivaient à faire des projets à différentes échelles. Et ça convenait à mon idée de qu'est-ce que c'est l'architecture, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être cantonné à faire que... une sorte de programme. Ce n'est pas parce qu'on fait des appartements qu'on ne peut pas faire une maison. Ce n'est pas parce qu'on fait une maison qu'on ne peut pas faire une école. Tout ça, c'est une histoire d'espace et de lieu de vie. Et je pense que là, je sentais une possibilité. Tandis que aux États-Unis, où j'étais formé, je voyais. Je pense que l'architecture américaine est très créative et mal connue en France, déjà. Il faut commencer par ça. Mais aussi, il y a deux catégories. L'un, c'est toutes ces maisons. Je pense que c'est 80% de la construction, c'est des petites maisons en bois. Donc, il y a beaucoup de créativité là-dedans. Et la construction est très simple. Mais à l'autre échelle, il y a peu de bâtiments publics, même si ça existe. Et les bâtiments sont souvent... dépend beaucoup des produits industriels, c'est-à-dire on va accoler des produits fabriqués.
Oui, c'est préfabriqué en fait.
Il y a un côté préfabriqué, donc ça existe partout.
C'est à grande échelle, vous voulez
dire. C'est à grande échelle. Mais bon, je ne vais pas parodier un peu parce qu'il y a beaucoup de richesses que j'invite tous les auditeurs de découvrir.
Oui, on
d'ailleurs.
Connaît Frank Lloyd, on connaît des tas d'architectes. Bon, évidemment, le nom ne me vient pas là tout de suite, mais qui ont fait des œuvres monumentales. Pas monumentales, mais en tout cas très belles, qui ont marqué leur temps. Mais ce que vous êtes en train de dire, et c'est vrai qu'on le remarque, tout ça est dupliqué à mort. Il n'y a pas des maisons singulières, c'est assez rare.
Alors beaucoup de mes collègues d'école... aux États-Unis passent leur temps à construire des petites maisons privées. C'est le métier pas modeste, mais c'est une filière assez courante aux États-Unis. Alors, si je parle de l'architecture scandinave, pour parodier encore une fois, je dirais les Norvégiens qui ont l'huile, qui ont le pétrole, donc ils ont l'argent, ils sont les plus flamboyants. Et les Danois, et ils vont tous me tuer quand je parle comme ça. Les Danois, ils ont eu un boom, donc ils ont construit des gros projets assez ambitieux et aussi inventifs, parce qu'il y avait l'argent, je pense, en partie. Les Finlandais, la Finlande est un petit pays, mais... il y a beaucoup de créativité et en Suède, il y a beaucoup de créativité, mais je suis plus critique parce qu'il y a un niveau moyen qui est très bon, mais il y a très rarement des projets qui dépassent ce niveau-là.
Mais ça ne dépote pas beaucoup.
Voilà, il y a une sorte d'égalité, mais qui est très haut. Donc, je pense que les appartements qui sont neuves, sont presque tous bons, voire probablement un peu meilleurs de ce qu'on trouve en France. Pas parce que l'architecture est meilleure, mais parce que les normes de vie sont différentes. Les appartements sont plus grands, ils sont...
plus pratiques à vivre. Il y a de grandes cuisines, il y a de grands placards, il y a de grandes salles de bain, il y a des grandes salles à manger, même dans un petit appartement.
La Suède est un grand pays avec une petite population, donc il y a la place. Même dans des grandes villes, on a la place de construire avec assez de place pour tout le monde. En France, c'est plus compliqué. À construire à Paris, c'est difficile.
Les tours, vous en pensez quoi, vous, les tours à Paris ? Là, il y a un projet qui a été rejeté dans la Défense, dans l'Est de Paris. Il y a ce fameux quartier dans le 13e que voulait faire naître la maire de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ?
Je ne veux pas être ringard là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de créativité de faire des tours, mais je ne suis pas très impressionné par les nouveaux tours qui poussent en périphérie de Paris. J'étais longtemps enseignant à une école qui était face à la tour Montparnasse et j'avoue que j'admirais de voir cette tour qui n'est pas très jolie, franchement, prendre
le
soleil.
Les Parisiens ne l'aiment pas trop, hein, cette tour.
Non, mais ça, je comprends, mais c'est quelque chose de le voir prendre le soleil et comme un objet, c'est assez... pas en soi, encore une fois, mais comme phénomène urbain. Mais ce n'est pas pour autant que je suis fasciné par ça. New York, ça marche parce que c'est une densité entière, c'est une autre logique. la qualité de Paris est essentiellement son densité homogène ou le niveau homogène. Ça n'empêche qu'il y a des superbes bâtiments qui dépassent, par exemple, dans l'Est parisien, il y a des logements plutôt modestes qui sont quand même à je ne sais pas, probablement à 18 étages. Mais les tours pour des grandes marques, même pour le tribunal de Paris, alors encore, je respecte mes confrères qui ont bien travaillé dessus et qui ont fait un bon travail, mais est-ce que c'est si intéressant? Je ne trouve pas, mais c'est très subjectif.
Oui, c'est très personnel, mais je suis d'accord avec vous, hein. Je suis désolée de le dire, peut-être que c'est ringard, mais effectivement, ça ne fait pas rêver d'habiter dans ce genre de choses, si ce n'est d'aller à un dîner chez quelqu'un, d'avoir une vue magnifique sur Paris. Je pense qu'on n'est pas tout à fait nés pour être tous entassés les uns sur les autres dans des très grands immeubles, mais bon.
Bah, alors, j'avoue que là, je ne serais pas tout à fait d'accord, parce que quand on va dans ces tours, c'est assez étonnant et excitant d'être en hauteur, au-dessus de tout. Le meilleur endroit à Paris, à mon avis, c'est tout ce qui est juste au ras des toits. Donc être au-dessus, c'est peut-être pas si intéressant, mais c'est quand même un peu passionnant.
Alors, quelles qualités doit avoir un architecte? Quelles qualités ça requiert de bâtir, de penser aux gens? On imagine qu'on doit savoir écouter ses clients, qu'on doit être à l'écoute de son temps.
Je ne voudrais pas m'exprimer pour donner des prescriptions sur qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là. Je pense que chaque architecte a ses sensibilités. Il y a tellement de talents, des architectes vraiment doués en France, mais aussi autour du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de visions différentes. Et il faut s'en enthousiasmer et aussi, face à ça, je pense qu'il faut rester assez modeste. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de collègues parisiens qui sont hyper doués. Après, si je parle pour moi, je pense qu'il faut essayer, comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'apporter quelque chose de plus. J'ai un confrère qui a été reconnu dernièrement et il citait son professeur qui disait, et un grand architecte aussi, dont j'oublie qui c'était, mais un grand architecte qui disait « L'architecture, c'est tout ce qu'on ne vous demande pas.
Uh-huh. »
C'est-à-dire que l'architecture est partout. Bon, je reviens un peu en arrière parce que je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que l'architecture est un métier, mais aussi un art, si je peux dire ça, entre guillemets, qui n'est pas très compris, je pense, et qui n'est pas très connu non plus. On voit des vedettes, on voit des objets qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'ailleurs, en passant, je dirais que les gens ont souvent peur du changement. Donc, un nouveau projet, c'est à décrier, avoir peur. Et c'est pour ça que peut-être ce que j'ai dit par rapport aux tours est déplacé, parce que la nouveauté est intéressante.
C'est pas très nouveau, les tours.
Non, c'est pas très nouveau, mais bon, voilà. Mais l'architecture est partout, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vit dans un cadre architectural, tous, surtout les urbains, mais même, je dirais même plus, on vit dans un cadre qui est fait par l'homme. C'est nous qui fabriquons notre cadre, avec mes élèves, je parle de l'environnement humain. C'est un environnement et la nature, entre guillemets aussi, existe.
Mais il est façonné par l'homme.
Mais il est retravaillé, disons, par l'homme. Et nous, on passe tout notre temps dans des bâtiments ou au mieux dans des paysages qui sont façonnés aussi par l'homme. Mais ce qui est génial, et ça aussi je dis à mes élèves, c'est que du coup, ça veut dire que c'est assez arbitraire les choix qui ont été faits pour fabriquer cette architecture, cette ville, cet bâtiment, cet espace. Et c'est là où on peut tous, mais surtout les architectes, avoir un impact. On peut essayer de se poser la question, est-ce qu'on fait ça parce que c'est ce qu'il faut faire ou est-ce qu'on fait ça parce que c'est le contexte, entre guillemets, ou est-ce que c'est les habitudes, est-ce que c'est des a priori, est-ce que c'est par facilité? Et là, je pense qu'on peut intervenir. On peut dire, qu'est-ce qui sera mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et la force d'être un architecte, c'est qu'on peut intervenir pour proposer mieux. On peut toujours. On nous demande, faites-nous une boîte étanche pour qu'il ne pleut pas et dans laquelle on peut mettre nos affaires. Et nous, on peut dire, oui, mais vous ne voulez pas un petit rayon de lumière, de soleil qui rentre le matin pour vous chatouiller un peu, ou une vue vers un arbre, ou un peu plus de hauteur sous plafond pour que vous respirez. Et c'est ça qu'on peut apporter et qui n'est pas toujours demandé.
Alors, on vit dans le Marais, nous, hein, c'est quand même là que ça se passe. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le Marais? Parce que vous avez décidé d'installer votre cabinet dans ce quartier très ancien, très patrimonial. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'architecture du Marais?
Le Marais est une question d'échelle, je pense. Il y a une certaine densité, mais donc ça revient à la question de la hauteur. C'est pas très haut. Il y a beaucoup de rues dans le Marais qui étaient, j'ai connu, donc ça fait, oh là là, 35, presque 40 ans que je passe du temps dans le Marais. Et donc j'ai vu l'évolution de la ville. Mais il y a une structure urbaine qui est probablement façonnée à l'époque où la ville était piétonne. Donc ça, à mon avis, ça parle beaucoup aux gens. Moi, ça me parle beaucoup. Je suis plutôt piéton ou à vélo. Après, on a une idée que la ville historique est homogène, mais ce n'est pas du tout vrai. Le Marais est particulièrement homogène, mais quand on regarde les façades des bâtiments, il y a de tout. Et ça, c'est une richesse aussi pour la ville de Paris, par exemple. Il y a de tout, il y a beaucoup de fantaisie dans les constructions et on a cette idée que tout est haussmannien. D'ailleurs, le Marais n'est pas très haussmannien parce que malgré le fait qu'on a essayé de créer quelques avenues qui traversaient, il n'y a pas beaucoup de l'époque haussmannienne qui est présent. C'est peut-être antérieur.
Alors, c'est très drôle parce que nous sommes à la Petite Place, dans le café de la Petite Place. Et quand nous nous sommes vus pour parler de cette émission, vous m'avez parlé, vous, de cet immeuble qui est en face de la Petite Place, que je trouve pas très joli. Et vous m'avez dit qu'il était très intéressant à vos yeux.
Oui, c'est très marrant d'être en face de ce bâtiment, qui est un bâtiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, peut-être des logements au-dessus. C'est un bâtiment qui est clairement dessiné par un architecte, probablement dans les années... J'aimerais bien savoir plus, ou vous citer le nom, mais mes respects à mon confrère. Mais c'est un bâtiment probablement des années 80, je dirais, une époque où il y avait des tendances un peu historicistes, et donc c'est construit dans le Marais, mais c'est un petit bâtiment qui est aussi construit réellement, je crois, en pierre de taille, avec une écriture un peu moderne, soignée, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est très subtil, et vous le verrez pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un petit angle qui est encorbellement, c'est-à-dire l'angle est coupé en courbe et qui dépasse l'angle de la rue. Et je trouve que ce petit geste, à la fois simple et sculptural, est magique. Mais j'ai mis beaucoup de temps à apprécier ce bâtiment autant.
Karl-Frédéric Zenzet, il faut absolument qu'on se retrouve pour un autre moment pour que vous nous décryptiez l'architecture parce qu'on adore. Donc c'était Moderne. Nous recevions aujourd'hui Karl-Frédéric Zenzet qui est diplômé de Harvard. J'aime bien le dire parce que je trouve que c'est quand même hyper bien, et de Yale, et cet architecte dont le travail est sobre, vibrant. Il a installé son cabinet d'architecture au numéro 5 de la rue Chapon, après avoir travaillé à New York. On était très contente de le recevoir. À très vite.
Merci beaucoup.
Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, à mettre un commentaire aux 5 étoiles, à suivre le Marais Mood sur Instagram et à partager l'épisode en story. Vous pouvez aussi découvrir les épisodes déjà en ligne et parler de Moderne autour de vous. C'était Katia Barillo, fondatrice de Moderne, le podcast du site lemaremoud.fr avec le soutien de l'agence immobilière des Enfants Rouges.